Merci beaucoup, messieurs, pour vos quatre exposés. Et je vais maintenant me tourner vers la salle pour voir s'il y a l'une ou l'autre question qui peut être posée.
Plutôt des observations, d'abord pour rebondir sur votre propos évolutionnel, notamment dans les pays de l'Est, on remarque que les gouvernements sont souvent très limités. D'un côté, on a le ministère de l'économie qui accueille un travail écrit des investisseurs et qui place une série d'autres ministères, dont le ministère de la Culture ou le ministère de l'Environnement, devant le fait accompli. L'autre partie du problème, ce sont les autorités locales qui disposent des pouvoirs, des prérogatives d'octroyer les permis de bâtir ou les permis d'exploiter les installations qui sont en désaccord avec les autorités nationales parce qu'elles sont directement confrontées aux attentes de la population locale. Donc le conflit investisseur-État est souvent un conflit au sein même de l'État avec des ministères qui pèsent beaucoup et des ministères qui ne font pas le monde. Et donc certains ministères se font davantage l'écho de la société civile. Donc la situation peut être extrêmement alambiquée. Sur la déclaration d'Amur, je la découvre. Je me demande si ça ne renvoie pas aussi, c'est à propos de ta remarque, à un problème de discrimination à rebours. Donc le droit de l'Union européenne, en tout cas la jurisprudence de la Cour de justice, admet la discrimination ou à un investisseur national est en fin de compte défavorisé par un investisseur dans un autre État membre. Et donc, ne faut-il pas voir cela dans cette perspective, mais je ne peux pas me prononcer davantage. Je crois que fondamentalement, en rejoignant vos différents exposés, ce qui est posé, c'est le contexte institutionnel à la négociation du traité. Donc on est passé d'une approche exclusive, de rattacher le CETA entièrement, comme on l'a fait pour les pays avec Singapour, à la compétence visée à l'article 207 du traité sur le fonctionnement. Puis le 3 juillet, Jean-Claude Juncker prend tout le monde par surprise en disant « mais c'est un accord mixte ». On sait très bien pourquoi est-ce qu'il a changé de fusil d'épaule. Mais la mixité entraîne lors des conséquences considérables, et pour nous, un régime de double mixité. Ceci met à mal à l'aise un certain nombre d'européanistes parce qu'on comprend la lourdeur de la mixité. L'affaire du CETA actuellement n'a fait qu'exacerber les craintes de blocage généralisé par rapport à la trentaine d'accords mixtes qui sont adoptés, qui sont conclus annuellement par l'Union européenne. Donc ça c'est le cas de figure, on est plus ou moins à 30 traités mixtes annuellement. Et donc c'est un risque de blocage continu. Alors pour la difficulté, je crois que c'est l'article 207, paragraphe 3, qui met en place le comité de suivi des États membres, étant donné que la Commission européenne est le pilote de la négociation du traité commercial. Et le Parlement n'a pas un véritable droit de regard. Il est, en vertu de la ligne 3 du paragraphe 3, uniquement informé de l'avancée des négociations. Et dans un arrêt récent rendu par la Grande Chambre, dans une affaire d'un traité Australie-Union européenne, la Cour de justice rappelle la Commission est le pilote de la négociation. Donc le Conseil est donc... Pour donner davantage de poids, soit on a la formule, on généralise la mixité avec un copier-coller du modèle constitutionnel belge dans les autres États fédéraux, donc ça risque d'être le blocage généralisé à travers toute l'Europe, soit on revient à la compétence exclusive pour faciliter l'approche, mais alors il faudrait, à mon avis, modifier l'article 107 pour permettre... pour qu'il y ait un garant des intérêts démocratiques, que ce garant soit le Parlement européen, et qu'il soit les fois en plus dans la phase de négociation.
Merci. On va prendre encore quelques questions, parce que je vois que le temps... Alors il y a ici Julien Piret, Arnaud Louette, oui.
Ok, merci beaucoup Julien Piret du Centre de droit public. Rapidement, une remarque et peut-être une question un peu plus fondamentale. Je ne sais pas le compris, mais il me semble que le professeur d'Argent a dit, je cite, plus ou moins, parce que les entreprises privées vont rechercher les failles du CETA pour y tirer profit. Je ne pense pas, fin de citation. Je rêve, mais quelqu'un d'autre l'a entendu. Bon, alors je rêve, on laisse tomber. Bon, en tout cas, moi, je voulais juste vous dire que j'ai beaucoup moins d'expérience que vous, mais que les connaissances qui travaillent dans les services juridiques de sociétés privées, je ne parle pas des avant de la William, de la Double Maillot, je parle de grosses entreprises. Leur quotidien, c'est essentiellement ça. C'est de chercher les failles dans les législations du travail fiscal, de marché public pour trouver des fonds. Alors, j'en viens à ma question plus fondamentale sur l'opposition entre les experts et les profanes. Plus exactement, si j'ai bien compris, entre les juristes et le peuple. Comprenons, le peuple étant les non-juristes. Donc. Je vous parenthèse, dans les citations de Waldron, il me semblait que c'était surtout les termes publics qui étaient mobilisés, et moins le terme libre. J'étais en lecture de parenthèse. On nous a donc, puisque je suis juriste, on nous a dit qu'il fallait que nous devons vaincre notre fétichisme et notre psychophilité, mais autrement dit, nous devons abandonner notre habitus de juriste, puisqu'en fait, on est quand même globalement socialisé pour être fétichiste et psychorigide, que ce soit par les années d'études ou par la pratique. Enfin, en tout cas, moi, durant mes 5 années d'études, même un peu plus, puisque j'ai pris mon temps, on m'a appris à me comporter comme... comme Pierre Dargent, comme Éric David, comme Marc Eutendal, comme Pierre Van Hommeslag, c'est-à-dire à ne jamais douter, à toujours prétendre avoir raison, à ne pas supporter la contradiction. Et d'ailleurs, on a eu un petit exemple tout à l'heure. Donc, autrement dit, moi je veux bien, mais alors si on ne doit pas être ce qu'on est en tant que juriste, alors première question, est-ce qu'il faut faire écrire ces traités par des membres du peuple ? Autrement dit, des non-juristes, donc tirons au sort des citoyens et des citoyennes de part et d'autre de l'Atlantique, et qu'elles rédigent le traité. Deuxième question, qu'est-ce que nous faisons, nous, en tout cas celles et ceux qui enseignent, pour éviter que les juristes, à la fin de leurs études, soient psychorigides et fétichistes. Merci.
Très bien. On va prendre aussi la question par le
Brexit. Juste une question extrêmement rapide, parce que vous avez évoqué la compatibilité, enfin le fait qu'on ne puisse pas se référer, ne puisse pas utiliser le concept de l'épuisement des voies de recours à terme en raison d'une possible contrariété avec la Cour de justice de l'Union européenne. Ce serait extrêmement long, il y aurait une Cour supérieure à la Cour de justice de l'Union européenne. Est-ce qu'en l'état, il n'y a quand même pas un problème de compatibilité aussi avec le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ? Je pense par exemple à l'opinion 2.13 relative à l'adhésion de l'Union européenne à la Cour européenne des droits de l'homme, où la Cour de justice de l'Union européenne a dit « non, ce n'est pas possible que l'Union européenne adhère à la Convention européenne des droits de l'homme, parce que ça impliquerait que la Convention européenne des droits de l'homme se prononce sur du droit européen, se prononce sur des partages de responsabilités, des partages de compétences entre États européens et la Commission. Donc est-ce que là, si maintenant on vient à demander un avis à la Cour de justice de l'Union européenne, on ne va pas se trouver exactement dans le même cas de figure, et comme pour la Convention européenne des droits de l'homme, où pourtant l'adhésion était inscrite dans le traité, eh bien, on va aussi avoir un problème, clairement, et la Cour de justice de l'Union européenne ne va pas valider les mécanismes proposés par la CETA.
Je crois qu'il y a encore une question.
Moi, je voulais juste, peut-être en rebondissant sur la convention de Julien Perret. Je suis Vincent Lefebvre, membre du Centre de droit public et du Centre de droit international. Pour réagir à l'intervention de Nicolas Angelet, et qui a été reprise ensuite par d'autres intervenants aujourd'hui, je suis assez d'accord en tout cas par rapport aux grandes lignes de la réflexion sur la technicité de ce texte et tous les débats sous-jacents qui se posent par rapport au caractère technique du droit. Mais d'une part, j'ai quand même l'impression, je suis plutôt théoricien, philosophe du droit, que ça renvoie à une vieille réflexion en théorie du droit, et je ne vois pas vraiment en quoi ici, j'ai l'impression que peut-être les termes, les protagonistes du débat, donc juristes, peuple, économistes, on va dire, sont mal posés, puisque le problème c'est un problème général du droit, c'est pas un problème du CETA. Le problème du CETA, c'est peut-être que même les juristes, et même les juristes spécialisés ne le comprennent pas. Mais le droit en général est un langage technique. Aller demander à une grand-mère de comprendre ce qui va arriver à sa mort, comment ses biens vont être transmis à ses enfants, à ses héritiers, en lisant les règles du code civil, on sait très bien que ce n'est pas possible. Donc c'est un débat beaucoup plus général. Donc la question serait pourquoi se pose-t-il plus particulièrement ici, dans ce cadre-ci ? Est-ce que le CETA, en d'autres mots, est un symptôme d'un manque de communication de plus en plus flagrant en temps de mondialisation entre ce qu'on appelle le peuple, mais j'ai envie de mettre beaucoup de guillemets à ce terme, et alors des élites, mais alors il faudrait peut-être inclure les juristes, en tout cas certains d'entre eux, dans ces élites.
Je voulais juste voir s'il n'y a pas d'autres commentaires ou questions. Non ? Eh bien, dans... Ah oui, bien sûr.
Okay. Je suis très conscient qu'on est presque à la fin, donc j'ajoute juste un tout petit mot. On pourrait se poser la question, du coup, comme c'est la Cour permanente d'arbitrage, on pourrait se poser la question pourquoi toute cette discussion de réforme maintenant, à un moment, si en fait beaucoup de ce qui est maintenant inclus dans CETA serait déjà possible dans le cadre du système actuel et en fait est partiellement pratiqué. Et je pense en partie la réponse est que justement une codification, quand on la trouve en CETA, ça pourrait aller plus loin éventuellement, force aussi les États à conformer leur comportement dans le cadre de litiges, d'un procès, à leur déclaration politique faite dans un autre cadre, c'est-à-dire un cadre plutôt politique de négociation. Parce que si on regarde justement, exemple, transparence, tout le monde est en faveur de la transparence, notamment tous les États. Mais si on regarde ce qui se passe justement quand un arbitrage a commencé, généralement, c'est le tribunal qui est complètement agnostique par rapport à la question de la transparence. L'investisseur est relativement agnostique s'il est secret commercial soit sauvegardé. C'est l'État qui s'y oppose. Donc, d'une certaine façon, il faut cette plateforme multilatérale, plus globale. Il faut définir les règles du jeu avant pour que les États ne puissent pas reculer à un moment donné quand ils trouvent que justement les règles générales ne soient plus dans leur intérêt.
Merci beaucoup. Alors, messieurs, vous avez chacun très précisément une minute pour vous.
C'est comme ça qu'on formate les juristes.
Très bien. Je commence.
Vas-y, vas-y.
Donc, le problème particulier du CETA, me semble-t-il, c'est que, comme le disait Pierre d'Argent, il n'y a pas d'exposé des motifs qui l'accompagne. C'est un premier point. Pour répondre à Julien, puisque j'ai très peu de temps, bon, évidemment, il y a dans tout propos, pas de la propagande, mais une dose d'exagération. Et donc, inévitablement, mon idée n'est pas de first let's kill all the lawyers, n'est-ce pas ? Et je ne dis pas non plus, Pierre, rassure-toi, un rédacteur du Sun, et donc je ne veux pas jeter les juges de la Cour suprême avec les arbitres du droit des investissements. Mais je suis convaincu que les juristes, en leur qualité de juristes, ceux qui doivent rédiger les traités, peuvent faire mieux et être moins elliptiques. Derrière chaque phrase d'un texte d'un traité, il y a 150 considérants implicites. Oui. Et je crois que c'est quelque chose qu'il faut éviter. Et je crois que tout ce qui s'est passé contribue à montrer qu'il faut l'éviter. Le problème du CETA ne se limite pas à ça, mais je crois que c'est un élément quand même additionnel. Ça, c'est le premier point. Le deuxième... Bon, il faut des juristes aussi parce qu'évidemment, c'est un sujet extrêmement complexe et on ne peut pas vouloir, comme je le disais, interpréter et appliquer le droit international des investissements en harmonie avec les droits de l'homme, le développement durable, la diversité culturelle, et puis ne pas avoir quelque chose qui inévitablement ressemble à une élite. Et donc, il faut des spécialistes pour... faire droit à la complexité du système qu'on veut instaurer. Et je pense que ça, c'est un des avantages essentiels du mécanisme international de règlement des différends. Ce que disait Pierre, il y a un instant, c'était que FNRSTAL ne devrait pas nécessairement ou ne pourrait pas faire confiance aux juges canadiens. Personnellement, c'est le propos que je ne suis pas tenté, auquel je ne suis pas tenté de souscrire. Mais il y a d'autres enjeux. Si on préfère le système international, c'est aussi parce que d'abord, il garantit une application uniforme du traité. Le but, évidemment, du traité, et Pierre l'a dit à la fin, c'est to level the playing field. Il est essentiel qu'il soit interprété et appliqué de la même façon des deux côtés de l'Atlantique. Et ça, on ne peut le faire qu'avec un tribunal international.
Je m'arrête là.
Très rapidement, j'avais regardé les chiffres UNCTAD que je peux vous livrer sur les statistiques, mais je vous le dirai tout à l'heure si vous voulez. Alors, je crois que on n'est pas obligé d'avoir des investisseurs chez soi. Souvent, l'investissement, c'est les États font les 12 yeux aux investisseurs, tu l'as dit, Nicolas. Hein? On les attire. On n'est pas obligé de les attirer. Une fois qu'ils viennent chez nous, souvent, le contentieux d'investissement, c'est une histoire d'amour qui est mal tournée. C'est-à-dire qu'on l'a attiré, on lui a fait des promesses, et puis on rompt ces promesses. On peut les rompre, dans quelles conditions, etc. Moi, je ne comprends pas très bien la logique qui dit « je ne suis pas pour les multinationales, je sais que les juristes des multinationales réfléchissent toujours au trou. » Ils sont payés pour ça, c'est normal. Il ne faut pas s'inquiéter de ça, c'est la déformation professionnelle. Mais je suis étonné qu'on dise « parce qu'il y a des injustices au Bangladesh, il faut rejeter le CETA ». Excusez-moi, mais les investisseurs qui viennent investir en Europe sont soumis aux juridictions des États membres. Et je trouve ça très bien, parce que l'argument qu'on a entendu, c'est que les investisseurs peuvent aller devant un juge international. Oui, c'est des obligations qui pèsent sur l'État, comme les obligations des droits de l'homme pèsent sur l'État. Hein, et il y a un contrôle externe sur ce que fait l'État. Mais l'État ne peut pas poursuivre l'investisseur devant un juge international. Mais heureusement que l'État ne se voit pas privé de son juge à lui pour poursuivre l'investisseur qui est chez lui. Et c'est ça l'investissement. L'investisseur est chez lui et doit se conformer à son droit interne. Et ça, l'État peut soumettre ce différend-là à son juge, à lui. Évidemment, si un investisseur canadien qui investit en Belgique fait des conneries en Belgique, il en répondra devant les juges belges. Est-ce que le juge belge est compétent pour savoir ce que l'investisseur canadien qui investit aussi au Bangladesh fait au Bangladesh ? Ben non. Et je suis d'accord qu'il y a une énorme injustice.
Le juge canadien par rapport à la mère canadienne.
Oui, d'accord, mais ça, c'est pas le problème du juge belge. Hein. Donc, on juge justement, on parle des pouvoirs nationaux face aux investisseurs qu'ils ont accueillis chez eux. Donc ce que le Canada peut faire vis-à-vis de sa société pour les saloperies qu'elle fait au Bangladesh, tout à fait d'accord. Mais on parle. Moi, la question que je pose, c'est est-ce qu'il faut, sur base de cet argument-là, qui détourne quand même l'attention de ce qui est au cœur du sujet, est-ce qu'il faut, sur base de cet argument-là, rejeter les choses qui sont acquises dans le CETA alors qu'on parle de toute autre chose. Voilà ce que je veux dire. Alors, sur l'épuisement des voies de recours internes, je pense qu'il peut y avoir, on verra ce que la Cour de justice dit, je pense qu'une difficulté pourrait surgir également par rapport au monopole de compétences de la Cour en matière de responsabilité extra-contractuelle de l'Union. Puisque ce n'est pas une compétence qui relève des juridictions nationales, mais c'est vraiment un privilège de juridiction de la Cour de justice. Bon, il peut y avoir une difficulté par rapport à ça. Il faut reconnaître qu'il y a d'autres systèmes, la charte de l'énergie, dans lequel on a déjà un système d'arbitrage d'investissement pour un traité auquel l'Union est partie. Mais on verra ce que la Cour de justice nous dit, on verra déjà ce qu'elle dit de l'arbitrabilité dans Singapour. Effectivement, elle peut y trouver une inconstitutionnalité au regard des traités. Alors on est reparti pour un tour, ça c'est sûr. C'est sûr.
Bien, alors, parce que je vois qu'il y a un cours qui doit
commencer.
Est-ce qu'encore François Dubuisson et David, vous voulez juste réagir en quelques secondes ?
Oui, c'était juste pour réagir très, très directement. Donc. Non. Il ne s'agit pas de mêler les deux questions, c'est simplement d'avoir une réflexion plus générale sur le sens dans lequel les États vont. C'est-à-dire que c'est les mêmes États qui, d'un côté, disent qu'il faut absolument, on a absolument besoin du CETA, il faut donner des droits supplémentaires aux investisseurs, et qui, en même temps, vont dire, mais surtout ne faisons pas un traité sur la responsabilité des multinationales. Donc c'est simplement une contradiction, ça montre simplement dans quel sens ils vont. Donc je veux dire, c'est que le même investisseur canadien, la même multinationale, elle peut avoir accès à des mécanismes d'arbitrage internationaux pour mettre en cause des responsabilités si elle estime que c'est droit. Mais au moins, je veux dire, ce serait moins cohérent si on avançait dans les deux en même temps, c'est-à-dire qu'on accepterait plus facilement le CETA si on se disait que dans le même temps, on fait avancer la question de la responsabilité des multinationales. C'est-à-dire que là, elles peuvent faire des saloperies au Bangladesh, il n'y a aucun moyen pour personne de les attaquer nulle part.
Merci beaucoup, messieurs.